Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, je vous invite à ouvrir le livre des Hébreux. Livre des Hébreux. Et j'aimerais placer devant vous trois principes directeurs du salut, c'est-à-dire trois points qui, sont des points fondamentaux par rapport au salut de l'âme, par rapport à ce que Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il en découle. On peut présenter les choses de cette manière. Alors, la première chose que nous pouvons dire avant de lire notre texte, il s'agit d'abord de l'affirmation de la parole de Dieu. Ce qu'elle nous dit, et ce qu'elle nous dit, c'est la vérité. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième chose, c'est la conservation de ce que Dieu nous dit, et ça c'est notre part, c'est de garder les choses dites par la foi, par le moyen de la foi et dans la foi. Troisième point, c'est ce qui en découle. Je vous l'ai dit il y a un instant, c'est la libération, parce que la parole de Dieu qui est la vérité nous affranchit, elle nous rend libre, si nous savons bien sûr conserver cette parole au fond de notre cœur. Et cette libération, au point ô combien nécessaire, et c'est la base finalement de tout, cette libération, ce n'est pas nous qui l'avons accomplie, c'est Christ qui l'a accomplie pour chacun d'entre nous, tout simplement par sa mort à la croix du calvaire, ce qu'on appelle tout simplement la rédemption ou l'expiation. Alors, je le rappelle, cet après-midi, on va voir, le premier point, c'est l'affirmation. Le deuxième point, c'est la conservation. Et le troisième point, c'est la libération. Premier point, on va lire dans Hébreux chapitre 1er. Et nous allons retrouver ces éléments pour que, là, nous puissions être scellés. Hein, vous l'êtes déjà, mais je veux dire, consolidé, affermi, devenant inébranlable, parce que ce n'est pas une parole d'homme qui a déclaré ces choses, mais c'est Dieu qui a déclaré ces choses. Écoutez bien, Hébreux chapitre 1er, verset 1er. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers ou le monde. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, l'expiation, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes. » Nous avons en face de nous le premier principe directeur du salut, c'est l'affirmation. Dieu dit, et ce qu'il nous dit, je le répète, c'est véridique, authentique, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que nous trouvons autour de ça? D'abord, nous découvrons, la première chose, c'est la divinité de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par un homme, aussi grand, aussi saint qu'il puisse être, nous sommes sauvés tout simplement par Dieu à travers celui qu'il a envoyé et qui est l'image du Père, qui est le reflet et l'empreinte, le reflet de sa personne et l'empreinte de sa gloire. Et il a accompli pour nous l'expiation et il est assis non pas au milieu des hommes sur la terre, il est venu, il a marché au milieu des hommes sur la terre pour donner, pour livrer un message, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il est dans les cieux et il revient bientôt parmi les hommes pour chercher ceux qui auront su conserver sa parole. Alors on reprend, j'ai donné un petit peu les grandes lignes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, c'est qu'autrefois Dieu a parlé et depuis les temps perdu dans l'histoire. Et il l'a fait jadis, il l'a fait à plusieurs reprises, Et il l'a fait également de plusieurs manières. La parole de Dieu est venue par les hommes de différentes façons, par différents hommes qui ont été tout simplement les porte-paroles de Dieu. Et il a commencé à parler aux ancêtres. Et comme il s'agit d'une épître qui s'appelle l'Épître aux Hébreux, ça s'adresse particulièrement aux Juifs convertis au christianisme. L'Épître aux Hébreux, c'est ça. Mais ça s'adresse aussi à tous les hommes, parce que nous qui sommes d'origine, qui sortons et qui sommes issus du paganisme, c'est aussi pour nous. Et d'autant plus que ça nous concerne, c'est que, somme toute, nous connaissons quand même l'Ancien Testament, cette ancienne alliance. Alors il a parlé à nos pères, nous pourrions dire, et il a parlé par les prophètes, des hommes inspirés. Ce n'est pas venu de l'imagination humaine, ce n'est pas venu parce que quelqu'un avait une pensée qui s'élevait un petit peu au-delà de notre horizon humain, mais ça descend, c'est venu inspiré, suscité tout simplement par l'Esprit de Dieu. Alors Dieu, précisément dans les derniers temps pour nous, et les derniers temps ça comprend plus de 2000 ans de christianisme ou d'évangélisation, on peut dire les choses comme ça. Alors, dans ces derniers temps, qui sont aussi les nôtres, pour nous, pour notre temps, notre génération, eh bien Dieu nous a parlé, non pas par les prophètes, et non pas seulement à nos pères, ça fait partie de l'acquis, du patrimoine, nous pourrions dire spirituel, mais il nous a parlé par une personne tout à fait spéciale, tout à fait particulière, il nous a parlé par le Fils, il nous a parlé par son Fils, celui qu'il a fait devenir le Fils de l'homme, c'est-à-dire semblable à nous. Dieu s'est incarné, Dieu est venu sur la terre, prenant une vie semblable à la nôtre, connaissant tout ce que nous pouvons connaître, et il s'appelle le Fils. Et non seulement en venant parler aux hommes, Jésus, puisque ça s'agit de lui, eh bien Dieu l'a établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire que l'espérance qui est la nôtre, eh bien, c'est de partager les trésors du ciel, la vie éternelle, toute la magnificence de ce que nous ne pouvons pas nous imaginer, parce que nous sommes encore dans les lieux terrestres, mais de tout ce qu'il peut y avoir, et que l'on appelle le ciel, la félicité, le royaume des cieux. Il en a fait héritier, c'est lui qui nous ouvre la porte, c'est lui qui nous fait rentrer dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume des cieux, et cela pas pour un temps, mais pour tout le temps, c'est-à-dire eh bien, on l'appelle l'éternité. Et si nous voulons savoir que Jésus est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga, c'est que c'est lui qui a créé le monde. Donc nous sommes aussi des créatures de ce monde, et c'est aussi lui qui est notre créateur, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre rédempteur, il est tout. Alors on le sait, ça c'est l'affirmation de la parole de Dieu, et c'est offert tout simplement à notre foi, quoi qu'il en soit. Et puis un peu plus loin, il nous est parlé que le Fils, et là nous touchons le caractère même de l'image du Père. Je vous rappelais, parce que je crois qu'il est toujours bon de le rappeler, parce que c'est important, on se souvient de Philippe, qui dans les évangiles s'est approché de Jésus et lui a fait cette question, « Montre-nous le Père, Jésus, montre-nous ton Père céleste, on aimerait tellement savoir qui est Dieu. Quel est ton Dieu? Quel est ton Père céleste ?» Et Jésus lui a dit, mais celui qui m'a vu, eh bien, a vu le Père. Et la démonstration la plus belle de Dieu parmi les hommes, elle a duré tout simplement 30 ans ou 3 ans, comme vous voulez, mais dans la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus, eh bien, c'était Dieu venu en chair parmi les hommes. Et c'est vrai que physiquement, Jésus n'avait pas l'aspect différent des autres hommes. Mais par contre, dans son état moral et dans sa dimension spirituelle, Jésus est la perfection de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Et cette gloire, elle s'est manifestée à travers des miracles, à travers des signes, à travers des prodiges, jusqu'à ressusciter les morts. À travers, cette victoire sur toutes les puissances diaboliques et démoniaques de l'enfer qui a reculé à ce moment-là et qui ensuite a été vaincue. À travers une profusion de prodiges, multiplication des pains, l'eau changée en vin et toutes sortes de choses, contrôlant et dominant la nature. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, la gloire de Dieu par l'extérieur, et puis l'empreinte de sa personne par l'intérieur, Dieu, le cœur de Dieu, les prérogatives de Dieu, les qualités de Dieu, la sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, l'amour de Dieu, incommensurable, incompréhensible, mais croyable dans la personne de Jésus. Et il nous est dit que ce Christ soutient toute chose par sa parole puissante. Être chrétien, c'est croire à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. L'autorité de notre foi, eh bien, c'est la parole de Dieu. On n'a pas autre chose, fort heureusement. On ne court pas après des légendes, des contes, après des illusions, après toutes sortes de choses qui auraient été bâties, des fables bâties à la manière des hommes. Mais non, c'est Dieu qui nous parle. Sa parole, elle est puissante et elle a traversé les siècles. Elle est venue jusqu'à nous et cet après-midi, on en parle encore. Et on veut en plus la mettre en avant parce que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Hier, dans notre réunion de jeunesse, quelqu'un a posé la question « Comment savoir si on a la foi ?» C'est bien, hein ? Enfin, je crois que tout le monde était convaincu. Hein. Mais c'est souvent la question qu'on pose, qu'on vous pose, et qu'on posait en l'occurrence, si j'ai bien compris, eh bien à nos jeunes, comment savoir et comment parvenir à la foi ? Eh bien, vous savez comment Paul les décrit ? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est simple, hein ? C'est si simple. Et un autre point dans cette première partie, l'affirmation, c'est ça. L'affirmation de la parole de Dieu. Dieu nous dit, il a fait la purification des péchés, Jésus a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Nous le croyons. Nous le croyons. Et il a fait la purification. Dans le passé, jadis, autrefois, les pères, dans l'ancienne alliance, faisaient la purification des péchés à travers un cérémonial tellement compliqué et répétitif, mais qui n'amenait pas que d'une manière superficielle et temporelle, eh bien, l'apaisement de Dieu, on pourrait dire ça comme ça, le pardon. Mais lui, il l'a fait une fois pour toutes, une fois pour toutes. Ce fameux jour de Golgotha où Jésus est monté à la croix, il a répondu, il a dit cette parole, « Tout est accompli ». Donc c'était fini pour l'ancienne alliance, c'était terminé. Et il a fait la purification des péchés. Et nous croyons que nous sommes purifiés, que nous sommes pardonnés, si nous croyons en Jésus-Christ, hein, tout simplement. Alors après, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, tout simplement. Et je voudrais vous dire, sans extrapoler, mais vous savez que nous sommes aussi assis spirituellement dans les lieux célestes avec lui, parce que la parole nous le dit. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes déjà, une partie de notre être est déjà dans les lieux célestes avec Jésus. Dixit Paul, épître aux Éphésiens, nous sommes assis avec lui pour le rejoindre complètement et totalement le jour où il viendra chercher son église, où il nous emportera avec lui par tout simplement la mort naturelle. Et nous savons où nous allons, tout simplement. Alors, je le répète, premier principe, l'affirmation de la parole de Dieu. Le deuxième principe, nous l'avons toujours dans l'épître aux Hébreux, on ne va pas quitter ce livre. Et il s'agit à ce moment-là, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la conservation de ce qui est affirmé dans la parole de Dieu qui est la vérité. Et là, nous tournons cette page et nous arrivons au chapitre 2 du livre des Hébreux et nous lisons cette parole. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est la logique, hein ? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Deuxième étape. Deuxième principe directeur du salut, c'est de garder, de conserver, de tenir en nous, de tenir pour nous, eh bien, tout simplement, ce qui nous a été dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu et vécu. Parce que c'est expérimental, hein, la parole de Dieu. Il faut bien le préciser. Alors, d'abord par l'attachement, par le témoignage probant qui nous est confirmé par les œuvres du Saint-Esprit. Je m'explique, on reprend. en raison de ce que nous avons dit précédemment, les affirmations de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas des gens qui entendons et qui oublions. Nous sommes des hommes et des femmes, et tout chrétien est un homme ou une femme qui garde ce qu'il a entendu. Alors, en conséquence, nous devons d'autant plus nous attacher. Est-ce que les choses sont sérieuses ou elles ne sont pas? Si elles ne sont pas sérieuses, on peut les oublier, c'est de la vanité, ça ne sert à rien. Mais si nous les tenons comme véritables, authentiques et comme la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nous le considérons comme le plus grand trésor dont nous disposons. Quand quelqu'un a un trésor, des bijoux, de l'argent, croyez-moi, il y fait attention, hein. Il ne laisse pas traîner comme ça sur le rebord de la fenêtre, hein. Parce que ça ne va pas rester longtemps. Mais parce que la parole de Dieu est un trésor. Alors à ce moment-là, nous nous attachons, nous prenons toutes les précautions, nous y engageons finalement tout ce qui est nécessaire pour que ça ne nous échappe pas, que nous ne le volions pas et que nous ne dérobions pas ce véritable trésor de Dieu. Parce qu'il y a des ennemis, il y a des brigands et des voleurs. Ils sont subtils ceux-là, hein. Ah oui, ils ne viennent pas avec des perceuses, avec toutes sortes de moyens utilisés par les malfaiteurs, mais c'est beaucoup plus subtil, c'est dans la pensée, c'est dans le cœur, c'est à travers des choses tellement perfides et quelquefois dont nous ne pouvons pas nous imaginer, mais c'est pour nous voler. Alors nous nous attachons aux choses que nous avons entendues, et cela, il y a quelque chose qui doit nous motiver, c'est que nous avons peur de les perdre. La peur est salutaire dans certaines choses. S'il y a des règles de circulation automobile ou pour les piétons, quand on voit le feu rouge ou le petit bonhomme rouge qui s'éclaire, on sait qu'on peut avoir peur. Hein. Et la peur va nous arrêter sur le trottoir en attendant qu'il passe au vert. Vous comprenez? Ça, c'est bien. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, de peur. C'est pas un traumatisme, cette peur. Je le dis bien. C'est une prudence. C'est quelque chose de réfléchi et d'intelligent. Alors, de peur que nous soyons emportés loin d'elle, malgré nous, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous faire oublier, eh bien, ce que nous avons entendu. Alors, il y a un fait qui est repris de ce que Dieu avait dit dans le temps, dans l'Ancienne Alliance, pour les Juifs, et il dit, mais si la parole annoncée par des anges, parce que c'était à ce moment-là, comme ça que, quelque part, on pourrait dire que Moïse a reçu les oracles de Dieu sur le mont Sinaï. Voilà. Alors, si ça a eu son effet, et si à ce moment-là toute transgression, ou tout oubli, ou toute inadvertance, ou autre chose, a eu sa juste rétribution, et que cet effet, eh bien, ça a été justement là, la désobéissance qui a eu sa rétribution, parce que c'était comme la loi, hein. Tu pêches, t'es puni. Hein, tu fais ceci en contradiction, avec Dieu, tu commets une infraction, eh bien, normalement, la loi, c'est la justice, elle te punit. Et si ça fonctionnait dans le temps, alors à bien plus forte raison aujourd'hui que nous sommes dans une autre dispensation. Que nous n'agissons plus par la peur, mais que nous agissons par l'amour. Que nous agissons dans la grâce et par la foi. Alors, faisons attention, parce que s'il nous est dit hier, c'était quelque chose de terrible. Mais aujourd'hui, puisque la grâce est supérieure à la loi, supérieure à toute autre chose, l'amour est supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer, et que nous avons reçu les choses dans l'amour et que Dieu nous les a données dans son amour, alors la règle n'est plus tout à fait la même. Si nous avons reçu le plus, si nous avons reçu le nec plus ultra, comme on pourrait dire, hein, alors comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Parce que le salut était à l'état embryonnaire pour l'ancienne alliance. Il existait, il était en devenir, en construction, il était en éclosion. Mais maintenant, nous sommes dans la fleur épanouie du royaume de Dieu à travers le message de Jésus-Christ. Et si nous piétinons tout cela, eh bien, c'est d'autant plus grave. C'est d'autant plus grave. Alors, le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Quand Jésus est venu, il a annoncé un nouveau régime, il a annoncé le bonheur pour les hommes par la foi, il a parlé de l'amour de Dieu. Alors, cette annonce faite par le Seigneur nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue. Et nous sommes encore dans la grande lignée de ceux qui ont entendu la parole du Seigneur. Et depuis 2000 ans, il y a là une foule d'hommes innombrables, incontables, incalculables, nous pourrions dire, et nous en faisons partie aujourd'hui. Nous sommes des communicateurs d'espérance, et nous sommes des porteurs de la foi dans un monde qui est profondément malheureux. Alors nous l'avons entendu, si ça a été confirmé ensuite par ceux qui nous ont précédés, par ceux qui sont encore peut-être encore vivants aujourd'hui et qui sont nos pères spirituels et qui nous ont prêché la parole, qui nous ont apporté le témoignage, ça a été confirmé par une nuée de témoins inimaginables et innombrables jusqu'à nous, parce que Dieu a fait une chose, c'est qu'il a appuyé leur témoignage des hommes qu'ils avaient reçus, eux, de Dieu, et que nous avons reçus des hommes, mais qui vient de Dieu, et que nous continuons à rendre ce témoignage autour de nous, parce que Dieu nous a donné un accompagnateur, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit se manifeste pour prouver l'authenticité, attester la vérité de la parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, et les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, non pas selon la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Écoutez, on a cru au Seigneur, on a fait foi à sa parole, et quand on a prié, quand nous avons prié pour nous-mêmes, quand on a prié pour nous, et quand on prie encore pour les autres, eh bien il y a, derrière cette parole, une puissance d'expérience. Et nous ne pouvons pas dire, nous les enfants de Dieu ou les chrétiens, nous avons appris, nous avons étudié, nous avons fait ceci, et c'est pour cela que nous sommes convaincus, cérébralement ou intellectuellement. Non, c'est que non seulement nous avons été convaincus cérébralement, intellectuellement, mais c'est parce que nous pouvons dire, mais le Seigneur a fait ça pour moi. J'ai vu dans ma vie des signes, j'ai vu des miracles, j'ai fait l'expérience de ceci et cela. C'est ce que Jésus dira à ses disciples dans l'évangile dans l'Ascension. Il dira ceci, que Dieu accompagnait ceux qui avaient cru, et ils allaient par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, confirmant cette bonne nouvelle par des signes, des miracles et des prodiges. Et aujourd'hui, le véritable salut, le salut qui est apporté aux hommes, l'authenticité de la foi, c'est pas seulement quelque chose que nous croyons, mais c'est quelque chose que nous avons vécu comme vrai. Et ça donne une force extraordinaire. Je crois en Dieu. Mais je crois en Dieu parce qu'il m'a parlé. Je crois en Dieu parce qu'il a parlé dans sa parole. Mais je crois en Dieu parce que sa parole, eh bien, m'a amené à véritablement vivre ceci et cela. J'étais ceci, j'étais cela. Le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a guéri. Il m'a pardonné. Et tous les jours, il fait des choses extraordinaires par des signes, des prodiges, des divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Peut-être certains nous pourrions dire, mais Seigneur, tu faisais des plus grands miracles hier pour les autres. Tu as fait de plus grands miracles au moment où je t'ai découvert. Mais vous savez, il n'y a pas de grands et de petits miracles. Et c'est aussi un sujet de conversation avec nos jeunes hier soir. C'est que même les petites choses dans notre vie, ce sont des miracles, n'est-ce pas? Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire dans notre ordinaire de vie. Quand je prends en considération et que je sais reconnaître Dieu dans toutes mes voies, et je me dis, Seigneur, tu vois, dans cette petite chose qui peut-être m'inquiétait ou commençait à m'inquiéter, eh bien, tu m'as montré que tu étais là. Seigneur, en m'évitant tel ou tel accident, parce qu'il y avait ceci et cela devant moi que je n'avais pas vu, et aujourd'hui, après coup, je m'aperçois que, eh bien, si tu n'étais pas intervenu, ça aurait été peut-être une catastrophe pour moi. Ne serait-ce qu'à commencer par le quotidien de notre vie, au regard de tous ceux qui n'ont pas ce que j'ai. On a du pain tous les jours dans nos maisons, on a des maisons, on a ceci, on a cela. Croyez pas que c'est pas un miracle de Dieu, ça? Au regard de ceux qui, quelquefois, attendent 2 jours pour avoir un bol de riz, ou pouvoir manger du pain. Et moi, je dis, c'est un miracle, et ça devrait nous confondre de reconnaissance et de gratitude. Tout le monde pense pas la même chose, hein, mais moi, je le crois, et c'est ça. Merci, Seigneur. Si nous sommes bien portants, si nous avons encore nos jambes, nos bras, et que intellectuellement nous pouvons encore réfléchir, penser et faire tellement de choses, mais je dis, mais Seigneur, c'est un miracle dans un monde de mort, un monde de maladie où les gens tombent d'un côté et tombent de l'autre, mais je me dis, mais c'est un miracle, Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Moi, je ne veux pas voir, et vous le savez, et vous êtes d'accord avec moi, mais on ne veut pas voir ce qui nous manque, on veut voir ce que Dieu nous a donné, et le bénir. L'affirmation, la parole de Dieu dit vrai. La conservation de la parole de Dieu par la foi. Et puis, nous en arrivons au dernier point, qui n'est pas moins beau, c'est la libération. Affirmation, conservation, libération. Je crois que Dieu dit, il tient parole. Parce qu'il tient parole, je conserve et je garde cette parole. Et parce que je la garde, on en arrive au signe, au miracle, etc., à la confirmation, donc à l'expérimentation, ça devient la libération, dans son sens le plus large, à commencer par le salut. Alors on va lire maintenant dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. 14-18, c'est pas la guerre, hein. Au contraire, c'est la victoire, c'est l'armistice. Alors, ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire nous les hommes, nous participons au sang à la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, à nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté lui-même, il peut secourir ceux qui sont tentés. La libération. La libération qui passe par l'expiation de nos péchés de Jésus à la croix. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus pourrait dire, mais sans ma mort, il n'y aurait pas de salut. Il n'y aurait pas de ciel. Sans ma mort, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Parce que c'est à travers ma mort que vous allez vivre et que vous allez vivre vraiment. Cette libération se décline sur trois éléments. La mort, la peur de l'homme, peur de la mort, entre autres, la peur de tout, peur de vivre, et puis la tentation. Alors, on va voir ça. Vous avez remarqué, le premier texte, c'est « Après avoir autrefois ». Le deuxième, c'est « C'est pourquoi nous devons nous attacher ». Et le troisième point, « Ainsi donc, conséquence, résultat, le fruit, ce qui en découle ». Parce que l'œuvre de Dieu, elle n'est pas stérile. Elle est féconde et elle produit la vie. « Ainsi donc ». Alors on va décoder parce que c'est un langage un petit peu particulier. « Parce que nous sommes les enfants de la terre ». Et c'est décrit de cette manière, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire que nous sommes des hommes et des femmes, enfermés dans une prison que l'on appelle le corps. Bon, elle peut l'être pour les malades, hein, pour les infirmes, mais c'est quand même une prison malgré tout. Voilà. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, et que Jésus est venu spécialement, et qu'il y a participé lui-même, il s'est fait comme nous. Pour que nous, nous devenions comme lui bientôt. Et lui, il s'est fait comme nous. C'est lui qui a fait la première démarche. Pour que nous soyons comme lui, il a fallu que lui devienne comme nous. À la différence que il n'était pas tout à fait comme nous, il ne connaissait pas le péché. Il a participé lui-même à l'humanité, afin que par la mort, par sa mort expiatoire, eh bien à ce moment-là, il prenne la victoire. En d'autres termes, c'est décrit de cette manière, il rende impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a vaincu notre ennemi invisible. Il a vaincu celui que nous ne pouvions pas vaincre, parce qu'il est plus malin que nous. Et c'est le mot, hein, malin. Pervers, méchant, infernal, satanique, abominable, il n'y a pas de nom, hein. Mais il l'a vaincu. Quand les hommes ont voulu, dans l'histoire des âges, essayer d'amadouer le diable, d'une manière ou d'une autre, entre autres par la sorcellerie, la magie, et puis toutes ces choses, vous pensez que le diable, il rigole bien, parce qu'il dit, vous voulez me chasser, vous voulez faire ceci et cela. Je sais pas si le diable a une barbe, mais il doit rire dans sa barbe. Il dit, mes petits, vous allez voir, c'est pas vous qui allez me vaincre, c'est moi qui vais vous vaincre, et vous allez tomber finalement dans ce que vous voulez vous servir contre moi, parce que tout ce monde ténébreux, ce n'est que mensonge, et ce n'est que mort. Donc, les choses sont retournées, mais il y en a qu'un qui pouvait vaincre, c'est Jésus. Alors, il l'a vaincu. Il l'a rendu impuissant. Et parce que maintenant nous savons, et que ce texte nous dit une chose, c'est qu'aujourd'hui, à cause de Jésus, et par notre foi en Jésus, eh bien nous sommes délivrés si nous vivons dans la crainte de la mort et que nous avons été jusqu'à maintenant retenus dans la servitude, c'est-à-dire dans l'esclavage. On pourrait le relire. Ainsi, ils livrent tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et le contraire de la servitude de la mort, ou de la crainte de la mort, ou de la peur de la mort, c'est quoi le contraire? C'est l'assurance de notre salut. C'est de pouvoir confesser que nous sommes sauvés, nous avons des certitudes et des assurances, et que nous pouvons dire. Écoutez, je pense que c'est un minimum à faire, hein. À partir du moment où nous sommes sauvés, que nous avons cru en Jésus-Christ et que nous sommes engagés avec Jésus, il y a une chose qui a disparu. Enfin, j'espère, en tous les cas, pour les uns et les autres. C'est que, même si la mort reste quelque chose toujours de négatif et de répugnant, en tous les cas, l'enfant de Dieu, il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait où il va. Ouais. Nous avons une assurance. Nous savons que nous allons avec Jésus, que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés nos péchés et qu'il nous prépare une place parce qu'il a plusieurs demeures dans sa maison. Alors nous n'avons pas peur. Nous allons perdre notre corps. Ça va disparaître tout ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est tout simplement l'impétuosité qu'il y a au niveau que Dieu a mis par sa vie dans nos âmes et dans notre esprit. Et là, je peux vous dire que, oui, on n'a pas peur. On n'est pas jugé, on n'est pas condamné, on ne va pas vers l'inconnu comme le reste des hommes. Nous savons où nous allons et la crainte de la mort est partie. Peut-être ce que nous redoutons, et ce que nous redoutons parce que c'est bien naturel et c'est bien humain, nous craignons de souffrir pour mourir. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais la mort par elle-même. Et il a délivré tous ceux. Et il nous le dit, hein. Alors, s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui n'avait pas réglé le problème, eh bien, moi, je voudrais vous encourager et vous rassurer. Je voudrais vous appartenir à Jésus. Eh bien, vous n'avez plus à laisser le diable vous inspirer de cette crainte perfide, cette crainte, cette peur de mourir. Oui, parce que ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et Dieu, au contraire, nous rassure et il nous donne de l'espérance. Car assurément, ce n'est pas à des anges que Jésus est venu en aide. Oui, il n'est pas venu sauver des gens, il est venu sauver des hommes. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, la postérité d'Abraham? Nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes pourtant des enfants d'Abraham. Et sur un plan qui n'est pas un plan humain ou racial, ou ethnique, mais nous sommes enfants d'Abraham par la foi, parce qu'Abraham est présenté dans la Bible, en première page, comme étant le père des croyants. Eh oui, et nous sommes ses enfants. Et il est venu sauver des hommes qui croient, des hommes qui ont la foi. Alors en conséquence de cela, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Vous savez que c'est quand même un privilège de pouvoir entendre que Jésus est notre frère. Oui. Eh oui, il est notre frère, hein. Ça, c'est autre chose. Avant, Jésus était notre ennemi, notre adversaire. Qu'on le sache ou pas, mais on se comportait comme s'il était notre adversaire et notre ennemi. Mais maintenant, il est devenu un frère. Nous sommes dans la même maison. Nous faisons partie de la même famille. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, et vous remarquerez les adjectifs, parce qu'il est miséricordieux, et il est fidèle dans le service de Dieu. Jésus a été jusqu'au bout. Ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et il était jusqu'au bout. Tout est accompli. Donc, il n'y a plus rien à faire, sinon croire. Et cette fidélité s'est manifestée, tout simplement, pour faire l'expiation des péchés. Parce que c'était certainement le plus difficile à faire. Le faire pour nous, c'est une chose, mais le faire pour des autres, pour d'autres, c'est autre chose. Et Jésus l'a fait, il est mort pour des injustes, il est mort pour des pécheurs, pour des coupables. Alors, il a été fidèle, car du fait qu'il a souffert lui-même, c'est pas un général qui dit à ses armées, eh bien, passez devant, allez-y, allez au front, et moi je reste avec mon état-major à l'arrière. Non, Jésus est passé le premier, et maintenant nous pouvons le suivre. Alors, il a souffert lui-même, et qu'il a été tenté. Alors, si nous savons qu'il est passé partout, nous passons. Par toutes les tentations. Lui, sans commettre de péché. Et nous, en commettant le péché, eh bien, nous savons que pour ne pas commettre de péché, il a été tenté. Et nous pouvons être secourus dans tout ce qui peut nous tenter. C'est ça. Alors, affirmation, conservation et libération. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu nous donne sa grâce. Parce que vous savez, comme nous le chantons quelquefois, il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné dans le ciel et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, à savoir le nom de Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Notre salut est grand. Notre Sauveur est admirable, il est glorieux et il est divin. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as rappelé ces trois principes fondateurs, essentiels, directeurs du salut. Oui, merci Seigneur. Alors, nous croyons que ta parole dit vrai. Oui, nous l'avons chanté il y a un instant. La parole de Dieu est la vérité. Et puis, tu nous as donné les moyens de conserver cette parole au fond dans notre cœur, de la méditer jour et nuit, de la méditer constamment. Et ainsi, Seigneur, eh bien, cette parole que nous connaissons devient réalité par des signes, des miracles, des prodiges, et ça, c'est notre expérience. Oui, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as ajouté au texte, et en effet, au message que nous pouvons lire ou que nous pouvons écouter, eh bien, la capacité, Seigneur, de pouvoir l'expérimenter, et nous t'en bénissons. Et puis, en conséquence de quoi? Alors à ce moment-là, Seigneur, nous pouvons rentrer dans une vie nouvelle. Une vie que nous pouvons appeler la libération des hommes et des femmes qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci pour ta parole cet après-midi. Bénis-nous les uns et les autres et que ce soit une pierre, un caillou blanc supplémentaire à l'édifice de notre vie spirituelle, de notre foi. Et peut-être même que ce soit pour ceux qui ne te connaissent pas encore, eh bien une découverte formidable que l'Évangile, ce n'est pas bâti sur du sable, mais c'est bâti sur du roc. Et nous t'en bénissons et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.